Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être en direct tous les jours de 15h à 16h. Dans ce studio pour vous accompagner, on retrouve bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Vous aimez le cinéma ?
Oui, j'ai deux passions, les antibiotiques et le cinéma.
C'est génial, ça tombe bien car notre grand dossier du jour sera consacré à Rambo, Hannibal Lecter, Dexter, Carrie Mathison et tous ces héros de films et de séries atteints de troubles psychiques. Depuis des décennies, le cinéma se délecte de thérapeutes en tout genre et de héros névrosés. Alors que nous apprennent ces personnages de fiction sur la psychiatrie et faudrait-il se débarrasser de certains préjugés médicaux à l'écran ? Pour en parler, nous sommes avec le psychiatre Christophe Debien, auteur d'un livre qui vient de sortir sur nos héros malades. Aujourd'hui, à l'occasion d'Octobre Rose, nous nous intéresserons aussi aux soins esthétiques pour les femmes touchées par le cancer. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo avec cette question : y a-t-il une façon de bien rompre quand le couple ne va plus. Nous aurons le plaisir de retrouver Catherine Blanc pour en parler.
Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Et pour ouvrir cette émission, voici le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. On vous apporte les réponses aux questions que vous nous posez au 3921, le répondeur d'Europe 1. Et la première question, c'est celle d'Ophélie.
Bonjour docteur, mon bébé a souvent le nez bouché. Je voulais savoir ce que je pouvais faire parce que je n'ose pas le moucher. Merci pour votre aide.
Alors Jimmy, les bébés ne respirent pas bien par la bouche. Effectivement, le nez bouché, c'est embêtant, mais quel est le bon geste ?
Alors oui, les nouveau-nés d'ailleurs respirent que par le nez. Et donc un bébé qui a le nez pris, un enfant qui va mal respirer. Et donc il faut lui libérer ses petites voies respiratoires pour son confort. Et ça aura aussi des conséquences, vu qu'un enfant qui aura le nez pris va tousser par la suite et peut-être développer une otite. Donc il n'y a pas 10 000 façons de laver le nez d'un enfant. C'est avec du sérum physiologique que vous achetez à la pharmacie. Mmh. Vous prenez une petite pipette. Vous installez le bébé, vous le mettez sur le côté. Évidemment, quand ils grandissent, ça se transforme un peu avec du catch. Et c'est compliqué, mais c'est pas grave, il faut y aller.
C'est vrai, ça rappelle les souvenirs.
On balance une bonne giclette. Attention, les tout petits, les nouveau-nés, on met juste quelques gouttes à l'entrée de la narine. Un enfant de moins de 1 mois.
On n'entre pas l'embout dans la narine.
Et surtout pas l'embout, parce que si vous mettez l'embout dans la narine, vous allez créer des petites lésions inflammatoires autour du nez qui vont faire que la narine va se rétrécir de calibre et il va moins bien respirer. Car en fait, vous allez juste aggraver l'inflammation. Mmh. Vous lavez chaque narine. L'idéal, c'est de le faire pas plus que 6 fois par jour. Car au-delà, on est traumatique. Et privilégiez des moments stratégiques, le réveil, avant le repas, avant le coucher et à chaque moment où vous avez l'impression que l'enfant est gêné. Et vous verrez, il respirera beaucoup mieux et tout le monde sera content.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez des mouches bébés avec le petit tuyau qui permet d'aspirer les sécrétions?
Je l'ai aussi utilisé comme papa, alors même si on dit qu'il ne faut pas le faire. Parfois, effectivement, il reste quelques sécrétions résiduelles et il peut être intéressant de récupérer de façon délicate des mouches avec un petit mouche bébé manuel. N'investissez pas dans des bouches bébés électriques, ça ne sert strictement à rien si jamais il y a des sécrétions, mais c'est un traitement complémentaire. Retenez que la seule façon de laver le nez d'un enfant, c'est avec du sérum physiologique.
Et ça, c'est jusqu'à quel âge ? À partir de quel âge un enfant se mouche ?
Écoutez, moi j'ai 33 ans, j'ai du mal à moucher, donc on ne jette pas la pierre à ses enfants, c'est souvent compliqué. Tout dépend de chaque enfant. Vers 2 ans, il commence à être un peu plus efficace, il accepte de sortir des crottes de nez, mais c'est souvent fastidieux. Et à ce moment-là, on peut faire un relais avec les petites bouteilles de, il y en a plein, de Physiomère, de Stérimar, qui permettent de laver le nez de façon un peu plus agréable et moins contraignante.
Merci Jimmy. On a une autre question d'auditeur qui nous a été laissée sur le répondeur, c'est celle de Julia.
Bonjour Anne, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai entendu dire qu'en ce moment il y avait une recrudescence de punaises de lit. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement ? Est-ce que ça ressemble à des poux ? Et est-ce que ça peut transmettre des maladies notamment ? Je vous remercie, passez une autre journée, au revoir.
Alors Jimmy, les punaises de lit sont-elles de la même famille que les poux ?
J'en ai aucune idée, je ne sais pas, je ne suis que docteur, je ne sais pas si c'est la même famille.
Pas vétérinaire.
Toujours est-il que c'est vrai que c'est des petits insectes qui font 5 mm, qui sont la taille d'un pépin de pomme, qui ne vont pas très vite, ça se déplace à la vitesse d'une fourmi. Ça ne saute pas, ça ne vole pas, ça peut survivre 5 à 6 mois et voire 1 an lorsqu'ils se mettent quasiment en situation d'hibernation. Ça se trouve un peu partout, dans les sommiers, dans les matelas, dans la literie, et ça se sert de notre sang la nuit. Lorsqu'on dort, ils vont nous piquer. Et donc forcément, on va avoir plein de petites éruptions.
Et c'est dangereux pour la santé ? Ça pose un problème ?
Non, ça pourrit la vie des gens qui sont effectivement piqués par les punaises de lit. Alors, les piqûres sont semblables à celles de moustiques. Sauf que vous en avez beaucoup plus, évidemment. Et ça touche les zones exposées, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas couvertes par un éventuel pyjama. Donc, mieux vaut dormir couvert. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des punaises de lit si jamais vous avez des petites taches noires sur les draps, dans les matelas, c'est lié aux excréments des punaises de lit. Et parfois, vous pouvez en retrouver des mortes. Et quand vous ne savez pas où elle se trouve, pardon, il est possible de faire appel à des chiens renifleurs qui sont formés pour repérer des punaises de lit. Ça coûte assez cher, c'est une centaine d'euros, mais au moins vous savez où se trouve le nid.
En tout cas, on ne peut pas passer à côté de piqûres de punaises.
C'est difficile, ça honnêtement. Démange. Les piqûres vont en s'aggravant. Souvent, les punaises piquent leurs nids sont près de là où elles vont se nourrir, c'est-à-dire au niveau de la literie des matelas. Et puis, petit à petit, elles vont se diffuser un peu partout. Donc, dans ces cas-là, il faut faire appel à des professionnels qui permettent de traiter l'intégralité de la maison, puisque vous pouvez en avoir dans la literie, dans les tapis, dans les vêtements. Et donc, ce qu'on peut conseiller, c'est d'éviter d'en attraper en faisant des choses toutes simples. Ce n'est pas forcément lié à la précarité, les punaises de lit. Il y a une recrudescence, même dans des grands hôtels. C'est d'éviter, lorsque vous allez dans une braderie, de ramener des meubles qui viennent peu de l'extérieur. Même chose dans les friperies, attention. Et puis, ne laissez pas traîner vos meubles, ne vous encombrez pas, évitez de ramasser ce qui peut traîner sur les trottoirs et faites appel à des professionnels. Et si vous êtes touché, probablement que dans votre immeuble, vous n'êtes pas le seul.
Merci Jimmy. Alors si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Je suis ravie de vous accompagner dans cette émission Santé et bien-être aux côtés du docteur Jimmy Mohamed. Dans ce studio également, il est notre invité du jour. Nous accueillons aujourd'hui un psychiatre, auteur, YouTuber. Bonjour docteur Christophe Debien.
Bonjour.
Vous êtes passionné de cinéma et vous êtes le co-auteur de la chaîne Psylab sur YouTube, auteur également d'un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Nos héros sont malades » paru chez Human Sciences. Il y a une citation au tout début de votre livre qui dit « Si la psychiatrie n'avait pas existé, les films auraient dû l'inventer ». Ça veut dire quoi que les personnages sont tous un peu perturbés au cinéma ?
Ça veut dire que pour faire de bonnes histoires, il faut qu'il y ait des drames. Et souvent, en tous les cas, une des utilisations de la psychiatrie par les scénaristes, c'est pour justement induire des drames ou des mystères d'ailleurs. Mmh.
Docteur Debien, vous allez forcément reconnaître cet extrait de film.
Le chef vient de lever la main, il a voté. Alors vous voulez bien ? Vous voulez bien nous brancher la télévision, hein ?
Tous à la salle d'eau.
Le chef vient de lever
allez,
la main.
Allez, venez, venez, messieurs.
Le chef a voté alors. Vous la branchez cette télévision, oui ou non ?
Monsieur McMurphy, comme vous le savez, la réunion et le vote étaient clos. Mais...
Jack Nicholson en vol au-dessus d'un nid de coucou.
Exactement. Bravo. Et vous écrivez que ce film a véhiculé beaucoup d'idées fausses sur l'asile prison. Quels sont les clichés qui vous agacent le plus dans ce film ?
Oh, il y en a un paquet. Mais effectivement, l'association asile prison, même si le film a été véritablement tourné dans un asile à l'époque.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Ce qui n'est pas toujours le cas. On le voit dans L'armée des douze singes, où là, on a une scène dans l'asile qui a été tournée dans une prison. Donc on voit qu'il y a quand même des clichés comme ça qui ont la vie dure, l'utilisation de la psychiatrie, enfin des traitements à visée punitive, je pense à la sismothérapie. Alors Miss Ratchet, c'est quelque chose, il y a une série d'ailleurs qui sort en ce moment et on voit bien que ce n'est pas la psychiatrie qui est en cause, mais la personnalité de cette infirmière chef. C'est un peu dommage parce que la sismothérapie, ça sauve des vies aujourd'hui, hein, dans des maladies qui sont très graves, hein, dans
ça
la dépression grave.
Ça consiste en quoi, très simplement ?
Alors, on appelle ça les électrochocs, parce qu'on met un courant de très faible intensité au niveau des deux tempes, vraiment. Et puis, on le fait passer pendant quelques millisecondes pour, pour arriver à une crise d'épilepsie, pour resynchroniser un petit peu les neurones. Et puis, il y a des libérations de neuromédiateurs à ce moment-là qui ont une action très rapide, beaucoup plus rapide qu'un antidépresseur, sur la mélancolie qui est la forme la plus grave de la dépression.
Parce que justement, c'est vrai que vous avez raison, dans les films, la psychiatrie est souvent, comme vous le dites, punitive. On utilise la sismothérapie un peu, notamment chez les personnes qui ont des conduites addictives. Je me souviens de Requiem for a Dream.
Tout à fait.
Dans ce film où une toxicomane, du coup, est traitée par sismothérapie. Pourquoi est-ce qu'on véhicule justement comme ça, à chaque fois, la punition liée aux soins chez des malades psychiatriques ?
Oh, parce que la psychiatrie induit beaucoup, beaucoup de fantasmes. D'ailleurs, pas que des fantasmes, parce que quand on pense à la psychiatrie réelle des années 70 en URSS, la psychiatrie a été utilisée avec cette volonté de normaliser les comportements. Et c'est là vraiment toujours le piège de la psychiatrie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout psychiatriser, parce que ce n'est pas notre travail. Moi, je suis docteur, comme vous. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la maladie.
Alors, il y a une autre idée fausse que l'on retrouve au cinéma, c'est celle que le fou est forcément violent et dangereux, alors que les chiffres montrent que ça n'est pas du tout la réalité.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé énormément par les scénaristes. Hein, c'est que celui qui tue, il faut qu'il soit fou ou possédé, parce qu'il y a aussi tout le côté du cinéma fantastique. Alors qu'en fait, quand on regarde, il y a une très très belle étude, il me semble que c'était dans le Lancet, qui montre que 3% des crimes de sang sont commis par des malades mentaux.
Donc ça veut dire que,
ça veut dire que 97% sont commis par vous et moi.
Des gens sains.
Et pourquoi cette fascination, cette surreprésentation justement dans les films à Hollywood notamment ?
Parce que ça permet à l'être humain d'avoir un rationnel rassurant. C'est-à-dire que c'est l'autre, c'est celui que je ne reconnais pas qui tue, qui est bizarre. Et c'est toujours plus facile que de se dire c'est moi qui suis capable avec mes pulsions personnelles de tuer quelqu'un. Donc je pense que c'est vraiment une utilisation, et on le voit, hein, c'est soit la maladie psychiatrique, hein, soit la possession par exemple, ou l'infection si je pense aux zombies. Hein, c'est quelque chose d'extérieur qui doit expliquer un comportement qui fait peur.
Est-ce que le cinéma arrive à suivre à peu près et assez fidèlement les progrès de la psychiatrie ? Parce que ça fait des décennies que le cinéma traite de cette question de la folie. On a vu différents thérapeutes, différentes méthodes de soins. Est-ce que c'est fidèle ?
Globalement, non. Maintenant, il y a un phénomène avec les séries. Là, pour le coup, on sort du cinéma où on sent qu'il y a une volonté d'être beaucoup plus proche de la réalité. Et je pense par exemple à Homecoming, qui est une série Amazon Prime. Mm-hmm. La thérapeutique qui est utilisée, qui est une psychothérapie chimio-facilitée, c'est-à-dire une psychothérapie aidée par des médicaments, ben, c'est vraiment quelque chose qui est peu connu. Et j'ai été étonné de la retrouver mise en scène, pas forcément de façon positive dans la série, mais mise en scène dans cette série. Et là, on voit qu'on est véritablement dans l'actualité.
On continue de parler de la folie de nos héros dans un instant, toujours avec vous, Christophe Debien.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être avec le docteur Jimmy Mohamed. Je suis ravie de vous accompagner. Avec nous en studio aujourd'hui, le docteur Christophe Debien, qui est psychiatre et avec qui on parle cinéma. Vous êtes l'auteur, Christophe Debien, d'un livre sur nos héros malades, livre paru chez Human Science. En vous lisant, docteur Debien, on découvre de quoi souffrent beaucoup de héros de films qui sont un peu perturbés. À commencer par celui-ci.
J'étais perdu, il se met à crier. Je rentrais chez moi, il n'arrêtait plus de crier. Je rentrais chez moi, le conduit en ma chambre, les 50 filles. Je n'arrivais pas à trouver ces genres.
Alors, on l'a reconnu. Il s'agit de Rambo, Sylvester Stallone, qui campe un vétéran du Vietnam arrêté pour vagabondage, qui parvient à s'échapper, qui tombe dans un mode de défense ultra-violent et sanguinaire. Psychiatriquement, il souffre de quoi, Rambo ?
D'un trouble de stress post-traumatique, à l'évidence. C'est d'ailleurs un des premiers films marquants, grand public, sur ce trouble de stress post-traumatique, qui date de 81, le film. Et le trouble de stress post-traumatique est reconnu sur le plan médical à partir de 1980. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit un des premiers. Et c'est un peu dommage parce qu'on a toujours retenu la violence du personnage. Oui. Moi, je le défends beaucoup parce que, avant d'être violent, bien avant d'être violent, il est malade.
Et justement, est-ce que c'est une bonne représentation de la maladie ? Est-ce que le syndrome de stress post-traumatique est bien identifié chez John Rambo ? Est-ce qu'il correspond à ce que des malades peuvent avoir ?
Ah oui. Oui, oui. Alors, ce n'est pas très subtil, mais c'est un des premiers films. Donc, mais la représentation notamment des reviviscences. Hein, donc, c'est-à-dire que les gens revivent la scène. C'est quelque chose, c'est une expérience quasi hallucinatoire. Hein, on ressent des odeurs, on ressent des sensations. On le voit très, très bien dans la scène où il est dans le commissariat, où on lui présente un rasoir et il revoit la séance de torture qu'il a subie quand il était au Vietnam. Les sursauts, on le voit au tout début, mais ça, il faut le savoir vraiment au tout début du film. On le voit sursauter quand il y a une fourgonnette qui passe et puis qui pétarade. Et puis cette hyper-violence qui peut ressortir.
Donc, elle est justifiée, en fait, sa violence.
Oui, parce que c'est une manifestation du corps. C'est-à-dire que quand vous avez peur, que vous voulez vous défendre de quelque chose, vous savez bien qu'il y a tout cette cascade du stress, hein, l'adrénaline, le cortisol, etc., qui vous prépare à, on le voit exploser là à ce moment-là, mais c'est indépendant de sa volonté, c'est pas une violence comme ça dirigée vers l'autre.
Un autre héros malade que vous nous présentez dans votre livre, c'est John Nash, le personnage du film A Beautiful Mind, film inspiré par la vie d'un mathématicien brillant, le prix Nobel d'économie, alors lui, il est schizophrène.
Oui, John Nash était atteint de schizophrénie, effectivement, d'ailleurs il le disait, il a à un moment sur Internet, il avait fait un blog aussi pour parler de la maladie de son fils, hein, qui est aussi atteint de schizophrénie. Enfin, en tous les cas, c'est ce que déclare son père. Ce que j'ai trouvé bien dans ce film, hein, puisque c'est référence à Beautiful Mind, un homme d'exception en français, c'est vraiment qu'on montre qu'on peut être atteint d'une maladie mentale et avoir une vie exceptionnelle, puisque quand même, prix Nobel d'économie pour un mathématicien, c'est quand même quelque chose de... C'est le père de la théorie des jeux. Vraiment, c'est... On voit à quel point on peut avoir une vie épanouissante. Et puis, on voit à quel point la maladie, c'est difficile. Puisqu'on le voit dans ce film, toute la partie où il est gravement malade et où on ne sait pas encore très bien comment le soigner et à quel point il faut l'accompagner, le dépister.
Alors, dans votre livre, vous faites vraiment une mise au point sur la schizophrénie. Vous dites que le cinéma l'a très souvent associé à un dédoublement de la personnalité parce que c'est sympa au niveau des effets spéciaux, mais ce n'est pas la réalité.
Non, pas du tout. Il n'y a pas de dédoublement de la personnalité dans la maladie schizophrénie. Hein, ça vient de Psycho, qui a été traduit d'ailleurs en traversant l'Atlantique, ça a été traduit par psychose. Psychose, psycho, ça veut pas dire psychose, ça veut plutôt dire psychopathe. Mais ça, c'était la volonté d'Hitchcock parce qu'il avait été échaudé lors d'un précédent film, qui était La maison du docteur Edward S., où il voulait montrer l'inconscient. Il voulait montrer vraiment ce qui se passait dans le psychisme. Et il avait fait appel à Salvador Dali. Et en fait, ils se sont tellement disputés sur ce film que Hitchcock a changé, d'un point de vue scénaristique, de façon de montrer ce qui se passait dans le psychisme. Et il s'est dit, pourquoi pas dédoubler la personnalité. Et effectivement, ça donne des films qui sont
sympas,
qui sont passionnants, sympas. On a Fight Club, par exemple. Fight Club, voilà. Je ne vais pas donner la fin, mais effectivement, Identity aussi, qui est un film où il y a beaucoup d'identités différentes. Split récemment.
Animal Lecteur, le psychiatre cannibale du silence des agneaux, lui, vous le placez dans quelle catégorie ?
Alors lui, c'est un gros trouble de personnalité. Hein. C'est quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal. On n'est pas dans la maladie mentale, on est dans les traits de personnalité pathologiques, dans le sens où ils font souffrir les autres, souvent. Et c'est un grand manipulateur. Il nous fascine, là, par contre, par son intelligence, par sa façon de venir nous chercher. Le film, d'ailleurs, est très très bon pour ça, ou même la série, parce qu'ils viennent nous mettre dans la même fascination que ces grands psychopathes nous mettent dans la réalité.
Vous restez avec nous, docteur Debien. On fait une courte pause et on poursuit cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Jusqu'à 16h, nous prenons soin de votre bien-être et aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale de nos héros de cinéma et de séries. Sont-ils équilibrés psychiatriquement et sinon, de quoi souffrent-ils ? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Christophe Debien, auteur d'un excellent livre sur le sujet « Nos héros sont malades » paru chez Human Science. On a évoqué la question de la violence de certains personnages. Alors, au cinéma, il y a aussi la question de la mélancolie, de la dépression. Est-ce qu'elle est bien représentée au cinéma, cette dépression ?
Elle commence à bien être représentée. Il faut dire que c'est une pathologie qui n'est pas évidente à représenter au cinéma, puisqu'il y a ce qu'on appelle le ralentissement psychomoteur, donc le ralentissement du psychisme et de ce qu'on fait. Donc à l'écran, si ça ne bouge pas beaucoup, on ne va pas être très passionné. Et puis, les scénaristes qui se sont penchés sur le cas ont trouvé, vraiment, je trouve, avec Les Sopranos, cette série,
oui, alors
où c'est un mafieux... Un chef de la mafia.
Voilà, ultra violent et en même temps qui a besoin de voir sa psy.
Eh bien oui, parce qu'il souffre vraiment d'une dépression très sévère. Par moments, dans le fil de la série, à la limite de la mélancolie, qui est le stade ultime de la dépression, avec des idées suicidaires. On voit toutes les complications, avec aussi des comportements addictifs, l'alcool, les drogues. Bon, alors ça fait partie du milieu, mais malgré tout, il l'utilise, on le voit, pour essayer de se soigner. Donc cette représentation, elle est vraiment très forte dans Les Sopranos. Il n'y a pas que Les Sopranos, il y a un film qui est moins connu qui s'appelle Le Complexe du Castor, qui est un film avec Mel Gibson, qui montre très bien aussi les conséquences de la dépression sur l'entourage et à quel point c'est difficile d'être dans l'entourage de quelqu'un qui souffre d'une dépression.
Et justement, en parlant d'entourage, dans ces films où des héros dépressifs sont mis en avant, et bien parfois c'est l'entourage ou l'amour de l'entourage qui permet de guérir ce héros malade. Est-ce que c'est scientifiquement ou médicalement pertinent ?
Alors, c'est absolument pas pertinent. L'amour n'a jamais guéri de quoi que ce soit. En tous les cas, beaucoup moins bien que les antibiotiques. Et donc, c'est vrai qu'en psychiatrie, c'est la même chose. Hein. L'amour, c'est l'apanage de l'entourage, des amis. Et c'est important qu'il y en ait. Notre job à nous, c'est pas l'amour. Hein. On n'est pas là pour donner de l'amour à nos patients. On est là pour donner du soin. Donc, c'est vraiment... Et ça doit être complémentaire. C'est terrible au cinéma parce qu'en plus de ça, c'est les femmes qui souffrent beaucoup parce que la plupart sont des thérapeutes femmes, psychiatres ou psychologues, ça souvent le scénariste ne sait plus, et elles guérissent leurs patients en couchant avec. Ce qui, je trouve, renforce en plus de ça les clichés sur les femmes, qui n'en a pas besoin, et renforce les clichés sur la psychiatrie.
Alors dans la série Homeland, l'agent de la CIA, Carrie Mathison, Elle souffre de troubles bipolaires, on entend le générique. Elle offre une bonne représentation de la maladie, cet agent ?
Alors, je trouve que c'est vraiment très subtil, parce que à la fois les scénaristes vont utiliser les symptômes comme le faisait Hitchcock, et donc forcément prendre quelques libertés, et à la fois je trouve qu'ils n'ont pas pris tant de libertés que ça, et ils ont réussi à utiliser la maladie dans, comme ressort scénaristique, et ça je trouve que c'est très très fort. Cette scène donc, qui réhabilite la sismothérapie, puisqu'elle la réclame alors que Saul, qui est son supérieur, lui dit, mais lui sort tous les clichés sur la sismothérapie. Elle explique à quel point elle en a besoin, à quel point cette maladie, en tous les cas dans la phase dépressive, la fait énormément souffrir. Et c'est utilisé, parce qu'un des effets secondaires de la sismothérapie, ce sont quand même des troubles de la mémoire. Et c'est utilisé à la fin de la première saison, parce qu'elle se souvient de quelque chose, pouf, au moment où l'anesthésie arrive. Je trouve que c'est très subtil.
Et au cinéma, on a l'impression que la bipolarité donne un avantage aux héros, ils sont fragiles et vulnérables, et puis en même temps, ils sont intuitifs, créatifs. Est-ce que c'est proche de la réalité ?
Alors ça, c'est le côté maniaque. Dans la bipolarité, il y a le côté en bas qui est la dépression, puis en haut qui est le côté maniaque. Alors c'est marrant parce qu'on associe, et puis on essaye d'associer souvent folie et créativité, pour dire en gros que ça ne vaut pas la peine de se soigner. Et donc on a fait des études. Il y a eu des grosses, grosses études sur des grosses cohortes. Eh bien, la bipolarité est associée. Il y a en tous les cas plus d'artistes qui sont atteints de bipolarité que d'autres choses. Alors pourquoi ? Ben, c'est pas étonnant en fait. On a des traits. Pour être artiste, il faut être capable d'aller en dehors des normes. Or, quand on est dans un accès maniaque, on va en dehors des normes. Pour être artiste, il faut produire beaucoup, jour, nuit. Quand on est maniaque, on ne dort pas ou on dort peu. Mais attention, quand on est dans un accès maniaque, on est incapable de produire quoi que ce soit de cohérent. Il y a une dispersion de la pensée. Donc oui, ça peut aider les traits, en fait. C'est des traits de personnalité qu'on retrouve de façon commune chez les artistes et chez les patients bipolaires, mais pas la maladie. En fait, on est artiste en dehors de la maladie, malgré la maladie.
Merci beaucoup, Christophe Debien, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions sur le cinéma et la psychiatrie. On redonne le titre de votre livre. Ça s'appelle « Nos héros sont malades » aux éditions Human Science. Merci encore.
Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, il est temps de vous faire du bien et de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
À l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, vous allez nous donner plein de conseils esthétiques et vous parler aux femmes notamment touchées par un cancer.
Oui, puisqu'on connaît généralement les grands effets secondaires comme la chute de cheveux ou les nausées, mais on ne le sait pas forcément, les traitements comme la chimiothérapie, radiothérapie, les traitements hormonaux ou encore la thérapie ciblée, eh bien, ont tendance à fragiliser la peau. C'est ce qu'a vécu Caroline, 40 ans, qui vit à Montreuil, près de Paris. Elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein en début d'année. Et pour elle, d'un coup, elle a vu la différence à cause des traitements.
Je sens que ça m'irrite un peu plus les yeux, par exemple les crayons, parce qu'ils ne sont pas assez gras. La crème pour le visage n'est pas assez hydratante, donc je sens que c'est beaucoup plus sec. Idem pour le corps, le produit lavant que je prenais était trop agressif. Et le déodorant aussi peut devenir assez intolérable, surtout par exemple là, quand on fait de la radiothérapie. Donc on nous propose plutôt d'utiliser de la pierre d'Alain. Le vernis à ongles, parce qu'en fait, les ongles avec le produit, les produits de chimio deviennent très, très fragiles. Et donc, on nous demande d'utiliser des vernis plus concentrés en silicium, ce qui permet d'éviter de perdre nos ongles.
Voilà, il faut donc des crèmes beaucoup plus hydratantes pour pallier cette sécheresse de la peau. Mais il n'y a pas que le vieillissement cutané qui est un problème, comme l'explique l'oncologue Mahasti Sagatchian.
Une patiente qui a une chimiothérapie, elle va être extrêmement sensible aux odeurs à cause des nausées. Donc certes, vous appliquerez de la crème sur le visage, mais elle ne supportera pas n'importe quelle texture, elle ne supportera pas n'importe quelle odeur. Certains de nos produits peuvent entraîner de l'acné, par exemple. Et puis, par exemple, il y a une chimiothérapie qui donne ce qu'on appelle un syndrome main-pied, c'est-à-dire une toxicité, une sécheresse, une rougeur, uniquement au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Et la seule façon de lutter contre ça, c'est avec des crèmes adaptées, anti-inflammatoires, encore une fois très hydratantes, mais surtout vraiment avec une fonction anti-inflammatoire.
Est-ce que, Benjamin, ces cosmétiques peuvent avoir un impact sur la santé, justement, de ces femmes ?
Oui, Jimmy, c'est le résultat d'une étude baptisée Beauty, menée sur 400 femmes, dont la moitié avait un accès à des soins cosmétiques, à du maquillage, au final, eh bien, l'image de soi est extrêmement bénéfique, comme l'explique le professeur Mahasti Sagatchian.
On s'est rendu compte de l'impact majeur sur le bien-être de ces femmes, sur leur image corporelle, sur leur réinsertion sociale. Pouvoir se maquiller, se sentir bien dans sa peau, bah, ça permet de mieux être avec son entourage, ça permet d'avoir plus confiance en soi. Une hygiène de vie incluant alimentation et sport, et ça c'est démontré dans de très grosses études, a un impact sur la guérison et la diminution du risque de rechute. On peut assez aisément imaginer que, associé à ça, des soins du corps, des soins du visage, prendre soin de soi, participe à une bonne hygiène de vie, à une vigilance par rapport à sa bonne santé. Et donc ça ne peut être que bénéfique.
Et c'est aussi une façon de retrouver une féminité pour Caroline, qui utilise dorénavant ces cosmétiques spécialement conçus pour les femmes touchées par un cancer.
J'avais perdu l'habitude de me maquiller depuis le mois d'avril. On a tendance à oublier ce côté féminin et c'est un gros confort hein, au quotidien de ne pas se sentir tiraillée au niveau de la peau, etc. etc. Bah, rien que ça, de passer devant un miroir et de se voir avec un plus joli teint et de retrouver... un semblant de cils, de sourcils, et ben ça change tout, quoi. Ça fait du bien au moral.
Et où est-ce qu'on peut trouver ces cosmétiques spécialisés, Benjamin ?
Alors aujourd'hui, on peut trouver ces cosmétiques justement en parapharmacie. Hein. De nombreuses marques comme La Roche-Posay ou Avène proposent ce type de crème. Mais il existe également des marques qui sont développées par des femmes atteintes de cancer, comme MEM ou Osalis, où la texture et l'odeur des produits sont totalement adaptées.
Merci beaucoup, Benjamin Lévesque.
Europe 1. Anne Le Gall et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Lucas. On l'écoute.
Bonjour. Du coup, j'avais une petite question qui me taraude un peu depuis un petit moment. Donc là, ça fait 4 mois que du coup, je suis avec ma copine et ça se passe pas super bien de mon côté en tout cas. Du coup, bah, j'hésite vraiment à me séparer de ma copine, mais je sais pas trop comment m'y prendre. J'ose pas trop lui dire en face et j'ai pas un petit peu peur de la blesser parce que là, je vois qu'elle est très attachée. Je me demandais est-ce que lui envoyer un texto ce serait peut-être la meilleure des solutions. Donc voilà, je voulais votre avis pour savoir, à votre avis, est-ce que. Quitter quelqu'un par texto, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ?
Catherine Blanc.
Alors, je crois qu'on est assez grand pour créer des liens, des relations, et il faut apprendre à être assez grand aussi pour dire où on en est, dans nos possibles et nos impossibles. C'est sûr que c'est douloureux. C'est douloureux, et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a suffisamment d'attachement, d'affection et de respect pour cette jeune femme pour avoir peur de lui faire du mal. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Il ne dit pas « bon, ça suffit, je te quitte, ça me gonfle, etc. » Non. Il a peur de le dire, il se sent mal à l'aise parce que justement, il ne veut pas lui faire du mal. Là, c'est une très bonne chose. Et je crois qu'on peut partir déjà là-dessus. C'est de dire que, quoi qu'on vive les uns avec les autres, eh bien, on a des limites. Mais on entend que nos limites ne sont pas nécessairement les limites de l'autre, que l'autre est plein de possibles et qu'on a peur de le blesser. Et qu'à ce titre, parfois, on est tenté d'aller au-delà de ce que l'on souhaiterait pour soi. Or, ce serait se mentir à soi. Et au final, de toute façon, faire du mal à l'autre, puisqu'on n'est pas dans la capacité d'être au même rendez-vous d'affection.
Alors, Lucas se demande quelle est la meilleure façon de quitter quelqu'un, mais est-ce qu'il y a une bonne façon ?
De toute façon, se quitter ou quitter quelqu'un, c'est de toute façon douloureux. C'est une épreuve tant pour celui qui doit en avoir le courage que celui qui reçoit la fin de non-recevoir. Donc, il n'y a pas de bonne façon au sens d'agréable. On ne va pas imaginer qu'il y a quelque chose qui fait que, youpi, badaboum, il y a celui qui s'en est débarrassé et celui qui sait qu'il est remercié. Non, ça n'existe pas. La seule chose, c'est quand on envoie un SMS, on peut se dire, voilà, pour moi, c'est fait, maintenant, elle s'en démerde. Et comme je ne le vois pas, eh bien, de fait, je me dis que tout s'est très bien passé parce qu'elle ne me rappelle pas en m'injuriant. Voilà. Et puis, si tant est qu'elle envoie un SMS... bien écrit, de toute façon, je peux aussi ne pas le regarder, etc. Je crois qu'on ne peut pas chercher le truc idéal. On se dit que, tout simplement que le mieux, c'est aussi de se mettre en face de l'autre, dans un respect des limites de chacun et même du chagrin et le cas échéant de l'autre.
Donc le face-à-face, plutôt.
Moi, je trouve que c'est honorable. C'est se dire, voilà, et dire éventuellement qu'on a peur. Et si on le fait par SMS, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, ben alors on dit, je le fais par SMS parce que parce que ça, je ne sais pas comment le faire. Je suis peut-être encore maladroit en le faisant par SMS.
Oui, parce que là, on dit que ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble. On pourrait se dire un SMS pourrait aller, puisque la relation n'est pas si longue. Mais on ne connaît pas l'intensité des sentiments qu'elle pouvait éprouver pour lui. Donc peut-être que ces 4 mois pour elle, c'était l'équivalent de 10 ans. Et donc on ne peut pas se contenter d'un SMS. Et peut-être,
absolument,
même si on dit qu'on a peur de faire mal, ça reste quand même fuir finalement le dialogue alors qu'on était ensemble pendant ces 4 mois. Donc c'est le minimum syndical, peut-être au moins. Je peux dire un coup de fil ou un FaceTime, mais au minimum de discuter de vive voix.
D'abord, il disait, ça fait un moment que je ouais, une question me taraude. Donc, ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble, ouais, et ça fait un moment que la question le taraude. Ce qui veut dire que, par peur de dire stop, il continue la relation. Et plus il continue la relation, plus évidemment, le dire stop devient compliqué, puisque lui, il est de plus en plus dans la difficulté de la relation. Donc, je crois que, de toute façon, pour moi, le SMS, c'est pas chouette parce qu'on coupe la parole à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire on peut dire que l'on arrête, mais on ne peut pas pour autant ne pas recevoir l'argument de l'autre, la peine de l'autre, les questionnements de l'autre, même si c'est dérangeant. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas très au fait du pourquoi de son arrêt. Est-ce que c'est simplement parce que j'ai envie de consommer la terre entière? Et auquel cas, je crois que c'est important au moins d'avoir un coup de fil, en effet, si on ne sait pas, si on ne peut pas être dans un face-à-face. Si on a peur que l'autre argumente qu'on se trompe, ben, c'est qu'on n'est pas très sûr de son propre avis personnel. Donc je crois qu'il faut on est rentré en relation, on sort dans le cadre d'une relation, c'est-à-dire de la liberté de parole des deux individus.
Et alors parfois, le message de rupture, c'est on va rester amis, on verra. Enfin, c'est bien de terminer comme ça le message de rupture.
Ben, c'est souvent, c'est très maladroit, mais ça veut dire aussi que tu étais suffisamment importante pour pas que tu disparaisses totalement de mon horizon. Simplement, celui qui est remercié ou celle qui est remerciée, de toute façon, là, en travers de la gorge, parce que c'est presque une dévalorisation de la qualité de la relation. Et pourtant, être ami, c'est une très jolie valeur, c'est une très jolie relation, avec plein de possibles extraordinaires. C'est pas parce qu'il n'y a pas les projets de la sexualité et de la vie de couple qu'il faut pour autant la dévaluer.
Merci beaucoup Catherine Blanc. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Et tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane et Mathieu.
Bonjour Anne. Bonjour. Restez avec nous pour Historiquement Vôtre. Je sens Stéphane en pleine forme aujourd'hui pour parler d'un thème pourtant un peu tristoun, des amours contrariés dans l'histoire, ceux qui ne vivront jamais tous les deux.
Oui, alors vous connaissez Héloïse et Abélard.
Terrible.
Hein, ils sont retrouvés seulement dans la tombe. Marie-Antoinette et son amant de cœur, le comte de Versailles, vous saurez dans l'émission si ils ont couché ou pas.
Oui.
Vous avez choisi un couple bizarre quand même.
Oui, et plus contemporain, des Australiens. Eux, ils ne vieilliront pas ensemble, Stéphane, puisque Catherine Knight et John Price s'aimaient très fort. Mais un jour, Catherine a bouffé John. Alors forcément, ça a été un peu la fin de l'histoire d'amour.
Enfin, ils sont l'un dans l'autre, donc.
L'un dans l'autre, on peut le dire.
Merci à tous les deux et bonne émission.